Interview. 1. Interview.
Hey, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio, j'ai le plaisir d'accueillir Nance Thomasset, producteur d'une émission très audacieuse qui a eu lieu sur France 5 à partir d'avril 2011 et qui s'appelait Nuit et culottée. Nance, bonjour.
Bonjour.
Alors, Nuit et culottée, pour nos auditeurs, qu'est-ce au juste ?
Alors, nu et culotté, déjà, je dois préciser, je ne suis pas producteur, je suis réalisateur. Et je suis co-réalisateur, c'est-à-dire qu'on est trois. Il y a mon acolyte, Moutz, avec qui je voyage, et puis Charlène Gravel, qui, elle, est monteuse, co-réalisatrice. Alors, nu et culotté, c'est quoi ? C'est des voyages où on part complètement nu, sans vêtements, juste avec notre couteau. Et on part depuis la nature, et on va réaliser un rêve dans la civilisation. Donc la plupart du temps, des rêves de gosse, ça peut être faire un bonhomme de neige en haut d'un pic alpin, ça peut être boire le thé avec un lord en Angleterre, ou alors rencontrer un druide en Bretagne. Comme ça, on en a réalisé 16 des rêves. Et l'idée, c'est de choisir des rêves pour qu'ils soient en fait un prétexte pour aller à la rencontre des gens. Donc ces voyages, voilà, on va évoluer en partant tout nu, sans argent, vers notre rêve, et surtout on va rencontrer des gens, et on va rencontrer des gens qui habitent autour de chez nous, parce que la plupart de ces voyages se passent en France.
J'entrevois la raison pour laquelle vous partiez nu, mais précise-la quand même, pourquoi partir nu ?
Alors nous, il y avait une grosse symbolique derrière de sobriété heureuse, c'est-à-dire on se posait la question, est-ce que c'est possible de faire des beaux voyages riches et forts, sans matériel, sans moyens financiers, ou avec le moins possible ? Et du coup, symboliquement, est-ce que c'est possible de bien voyager en partant tout nu ? Et donc voilà, c'était parti de là-dessus. Et je crois que dans le fond, avec Moutz, mon ami, on est passionné d'aventure. On adore aller titiller un peu l'inconnu et se mettre en dehors de notre zone de confort. Parce qu'on a remarqué en fait très tôt que quand on sort de notre zone de confort, c'est là qu'il y a de la magie qui apparaît. Donc voilà, on a imaginé cette manière de voyager pour faire émerger la magie. Et la magie autour de chez nous, encore une fois.
Et donc, quand tu démarres nu comme un ver, tu ne commences pas par te faire ramasser par la marée chaussée pour outrage à la pudeur ?
Alors, il y a une des règles éthiques qu'on a quand on part tout nu, c'est qu'on ne se monte pas à poil devant les gens. Donc, quand on est dans les bois, on va d'abord se faire une espèce de pagne végétale ou avec des matériaux recyclés. On va trouver, par exemple, un bout de bâche, un buisson, des choses comme ça. Donc quand on arrive sur la route ou devant les maisons, on est couvert, au minimum. Donc si la police arrive, eh ben, on leur présente nos papiers et on est en règle.
Vos papiers que vous sortez d'où d'ailleurs, puisque vous êtes nus ?
Alors on a un baluchon sur lequel il y a deux caméras, une caméra qui nous filme et une caméra qui filme les gens. C'est des caméras assez discrètes, ce qui permet de pas trop modifier la rencontre. Et puis on a aussi un petit sac à dos avec nous. Et dans ce sac à dos, on a tout le matériel pour la réalisation du film. Les caméras, les câbles, un petit ordinateur, des disques durs. Et dans ce sac à dos, il y a aussi nos papiers.
Quelle est la réaction ? Alors, je ne vais pas dire classique, mais comment réagissent les gens en général ? Ça m'embête en général parce qu'il y a sûrement eu tellement de réactions différentes au fait que vous apparaissiez nus comme des vers.
Alors la première réaction, c'est de la surprise, de l'étonnement. Bien sûr, tu vois arriver devant ta porte deux gens habillés en buisson, c'est très étonnant. Et à partir de là, soit ça fait rire, soit ça fait peur. Bon, ça laisse pas indifférent, et nous c'est ce qu'on veut. On n'a pas non plus envie de faire peur, mais en fait on se rend compte que bien souvent c'est plus la curiosité qui va naître et qui va nous permettre de rentrer en lien avec les personnes. Quand ça fait peur, c'est quoi par exemple ? On fait du stop sur le bord de la route, habillé avec quelques feuilles. La personne s'arrête, nous voit, puis on redémarre la voiture et s'en va. Et puis nous, on reste sur le bord de la route. C'est arrivé très rarement. La plupart du temps, paradoxalement, on a eu un très bel accueil. Et je pense qu'on a eu un meilleur accueil habillé comme ça que habillé normalement. Parce qu'on est très vulnérable, en fait, à ce moment-là. Et donc, les gens ça vient réveiller chez eux une espèce de bienveillance. Et on a remarqué que c'est souvent chez des femmes qui auraient l'âge d'être nos mères qu'on se fait héberger au début. Comme s'il y avait un transfert, tu sais, une tendresse maternelle qui se réveille chez ces femmes-là et qui ont envie de prendre soin de nous. Et souvent, elles nous le disent. Elles nous disent, ouais, vous pourriez être mon fils et j'ai pas envie que mon fils reste comme ça dans la nature.
Vous lui avez expliqué quand même que c'était volontaire, que c'était pas parce que vous étiez pauvre et misérable et rejeté.
Bien sûr, bien sûr. Et je crois que ça, ça rassure aussi le fait que ce soit volontaire, cette démarche. C'est-à-dire que quand on arrive vers les gens, on précise notre objectif, on précise notre démarche et aussi on se précise nous-mêmes, on se présente un minimum. Et juste avec ces trois éléments, ça rassure énormément et voire même ça motive les gens à nous héberger parce qu'ils vivent notre rêve par procuration. Et donc on a une position très différente d'un sans-abri par exemple qui l'a pas forcément choisi. Bon, des fois c'est choisi, hein, on sait jamais, mais nous c'est vraiment volontaire et on est content de le faire. Et on est de passage. Donc les gens, ils se disent, bon, on l'héberge pour une nuit, puis le lendemain, il part. Ils n'ont pas cette peur qu'on s'éternise pendant un mois.
Pour nos auditeurs qui ne te voient pas en face d'eux, je confirme que tu n'as pas l'air miséreux ni en mauvaise santé. Tu as l'air plutôt resplendissant, sans vouloir te jeter de fleurs. Ça joue beaucoup, parce que l'effet répulsif de la misère pourrait faire fuir, effectivement.
Ouais, ouais. Après, il nous est arrivé aussi d'arriver devant les gens avec plein de boue sur nous. Tu vois, on a passé une nuit dehors, on a encore des branches dans les cheveux, on a la tête toute enfarinée. Et je pense que l'apparence, effectivement, a un rôle. Mais c'est un rôle qui est, qui prend pas toute la place non plus. Une fois qu'on arrive à établir un lien avec une personne, disons plus de 5 minutes, et ben l'apparence va laisser place à l'intention. Et si notre intention est vraiment claire, et ben c'est ça qui va prendre le relais. Donc disons que c'est important d'être présentable quand on vagabonde, pour quand on se présente devant les gens, mais ça va pas tout faire. Voilà, donc je dis ça par rapport à cette apparence de misère qui peut faire peur un peu aux gens parfois. On peut aussi voyager même si on n'est pas très bien habillé. Voilà, après c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont éliminatoires. C'est vrai que l'odeur, nous quand on sent mauvais parce qu'on a passé trop de temps dehors ou qu'on a dormi dans je sais pas quel endroit, ça ça peut vraiment repousser. Je me souviens une fois, on est parti d'une plage et on s'est habillé avec des algues. Et on sentait l'iode, mais l'iode, tu sais, les algues un peu pourries, quoi. Et les gens, c'est waouh, c'est trash, quoi. C'était dur pour eux.
Parce que vous expliquez votre projet aux gens que vous croisez, quand même. Ils sont mis au courant, ils savent ce que vous faites. Et comme tu disais, ils vivent par procuration votre challenge.
Voilà, mais on leur explique notre projet de voyageur, mais très peu le projet de réalisateur. Parce que nous, on a deux casquettes, bien sûr. On est voyageur et réalisateur. Et ce qu'on essaye de faire, c'est laisser de côté le plus possible les caméras, pour pas qu'elles influencent trop la rencontre, encore une fois. Et donc, quand on se présente devant les gens, on dit, voilà, on est parti tout nu, on va à tel endroit, on voyage sans argent, est-ce que vous auriez une place chez vous pour nous héberger ? Mais on parle très peu du film. Et à la fin de la rencontre, bien sûr, on leur fait signer des autorisations et c'est là qu'on leur dit, ben voilà, on a filmé ce voyage, vous avez vu, on a des petites caméras et on aimerait en faire un film, est-ce que vous accepteriez de passer dedans ? Et 95% du temps, les gens disent oui.
Ça s'est quand même arrivé que des gens ne veulent pas être intégrés dans cette émission.
Bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr.
Alors tu as parlé de magie et j'entends bien, un tel concept doit induire de la magie. Comment tu pourrais parler de cette magie, de cette aventure, de cet inconnu que tu as pu rencontrer en moultes occasions, je suppose ?
Alors pour nous, ça se passe comme ça. C'est que quand on prévoit un voyage, généralement, on prévoit à peu près où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et on a remarqué qu'on ne prévoit que ce qu'on connaît. C'est très difficile d'imaginer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc on se base tout le temps sur la mémoire des autres. Et se pose la question, alors, comment faire pour vivre quelque chose d'inédit, de complètement nouveau ? Même une activité peut-être qu'on ne connaît pas du tout, ou une situation complètement inconnue. Et pour ça, pour nous, l'idée, c'est de mettre en place un cadre qui permette à cet inédit, à cette magie d'apparaître. Et ce cadre-là, c'est de partir tout nu et d'avoir le moins possible de contrôle sur le voyage. Parce que à chaque moment où on va vouloir contrôler le voyage, on va l'orienter dans une direction qui nous rassure, qu'on connaît. Je me souviens par exemple un soir, on demandait l'hébergement chez l'habitant avec Moutz, et moi j'avais beaucoup d'énergie ce soir-là, et je demandais. Et au bout de quelques minutes, Moutz m'arrête et me dit « Mais Nance, pourquoi tu demandes qu'à des femmes ?» Tu vois, j'avais pas remarqué, mais je demandais qu'à des femmes, effectivement, ce soir-là, je sais pas, j'avais besoin d'être rassuré, de tendresse, ou je sais pas, et j'allais faire ça. Et ça, forcément, ça réduit les possibilités de rencontres nouvelles, si je demande qu'à une seule type de personne. Donc, quand on part tout nu, et qu'on arrive devant les gens, on n'a pas vraiment le luxe de choisir, parce qu'on est très vulnérable, et il faut qu'on demande à la première personne qui vient. Et ça, ça va nous emmener vers des univers qu'on ne connaît pas. Parce que si on a le choix, forcément, on va vers des gens qui nous ressemblent ou des gens qui nous intriguent. Mais nous, on a été hébergés parfois chez des assassins ou chez des gens qui avaient des points de vue complètement différents des nôtres. Mais comme la survie passe avant, disons, le confort intellectuel d'être avec des gens qui nous ressemblent, eh ben, on va chez eux. Et à ce moment-là, ben, on découvre que malgré ces différences, on a aussi des points communs. Et c'est là que ça devient intéressant, quoi, qu'on commence à apprendre, à découvrir des nouvelles choses.
Est-ce que tu n'as pas expérimenté une certaine typologie des gens qui étaient ouvertes à votre aventure ?
Eh bien, par exemple, en stop. Si je fais du stop sur le bord de la route et que je tends le pouce, la plupart des gens qui vont s'arrêter, moi, si je suis un homme et que je fais du stop, deux personnes sur trois qui vont s'arrêter seront des hommes, qui eux-mêmes ont souvent fait du stop dans leur vie. Si c'est une femme seule qui s'arrête, il y a deux chances sur trois pour qu'elle soit du corps médical, soit du corps enseignant. Parce que c'est des métiers où on a l'habitude d'être en relation avec l'autre et donc il y a moins de peur. Voilà. Donc il y a une certaine typologie. Mais si tout d'un coup j'arrête de tendre le pouce sur le bord de la route et que c'est moi qui vais vers les gens, par exemple dans une station-service, là j'ai le temps de parler, j'ai le temps de rassurer, les gens ont le temps de me voir, de me comprendre. Et bien souvent, il y a des gens qui n'ont jamais pris en stop jusqu'à maintenant et qui me prennent parce que, bon, ben oui, effectivement, pourquoi pas ? Je ne l'aurais pas fait de moi-même si vous auriez tendu le pouce sur le bord de la route, mais là, vous venez me demander pourquoi pas. Et donc, disons que ça ouvre encore les possibilités. Donc oui, je dirais oui, il y a une certaine forme, une certaine typologie de personnes qui vont prendre en stop ou qui vont héberger, mais le fait d'aller voir les gens et de demander d'avoir le temps de parler, ça va permettre d'ouvrir sur cette typologie, sur ces classes. Voilà.
Alors revenons à la magie un petit peu si tu veux bien. Est-ce que par exemple tu pourrais nous dire quelques anecdotes où tu aurais véritablement vécu avec Moutz des moments de magie ou de mystère ?
Alors, le premier jour de tournage de notre premier film, c'était en avril 2011. On est parti du cirque d'Archiane, juste à côté d'ici, juste à côté de Die. Et on était dans les bois. Et ce soir-là, ils annonçaient 0 degré à la météo. Nous, on voulait absolument passer une nuit dehors. Et donc, le feu, ce n'était pas une option. Donc, on commence à utiliser une technique de friction qu'on a apprise. Et on frotte deux bouts de bois, tu vois, ensemble. Et au bout de 3 heures, ben, toujours pas de feu. Alors, on était bien embêtés parce que le soleil tombait, la température aussi. Ça commençait à faire vraiment froid. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire ? Donc si on n'a pas de source de chaleur, il nous faut une source d'isolation. Donc c'est là qu'on commence à regarder autour de nous. Au mois d'avril, le tapis végétal est vraiment très faible, mais il y a un tout petit peu de mousse sur les rochers. Donc on se met à la tâche sans vraiment y croire, tu vois. Et au bout de 5 minutes, il y a Moutz qui hurle. Tu sais, on est au plein milieu des bois, loin des sentiers. Et là, il me dit, non, regarde ce que j'ai trouvé. Un briquet. Donc ça, c'était très mystérieux. Je sais pas combien de briquets t'as trouvé dans ta vie. Tu sais, peut-être une dizaine, je sais pas. Sur les 10, il y en a peut-être un ou deux qui marchent, qui fonctionnent. Et là, on venait de trouver un briquet qui fonctionne dans la forêt, sous de la mousse, le jour où on essayait de faire du feu pour pouvoir survivre cette nuit-là, tu vois. Donc là, ouais, il y avait quelque chose de magique, de miraculeux même. Et d'ailleurs, on l'a même pas montré à la télé parce qu'on s'est dit « personne n'allait nous croire ». Donc on a fait semblant d'allumer notre feu avec deux bouts de bois. C'était trop magique.
Sans transition, en aurais-tu d'autres souvenirs merveilleux de tes aventures ?
Oui, bien sûr. Alors ça, c'est, disons que c'est de la magie qu'on va vivre dans la nature. Mais moi, la magie qui m'a beaucoup touché, c'est celle qu'on a vécue aussi dans les rencontres. Déjà, quand des personnes nous reçoivent chez eux, alors qu'ils sont en pleine occupation, tu sais, une fois... on était dans une ville et il y a une femme qui était un projectionniste dans un cinéma qu'on est allé voir parce qu'on demandait notre chemin. Et puis on lui dit, voilà, nous on cherche à dormir ce soir chez l'habitant. On parle avec elle une heure, on la connaissait pas du tout. Et au bout d'une heure, elle nous dit, écoutez les gars, prenez mes clés, allez vous installer chez moi, je vous rejoins ce soir. Et on était à Paris. Donc ça pour moi c'est un miracle. Un miracle, c'est voilà, quelque chose qui dépasse ma vision de cette ville, par exemple à Paris, ou qui dépasse les possibilités que j'avais imaginées avec les gens. Là, une telle confiance, pour moi, c'est miraculeux, c'est magique. Ensuite, je me souviens aussi une autre fois dans la campagne, c'était dans le sud de la France, en Camargue, on arrivait avec une toge, on avait trouvé un vieux tissu dans la nature, et puis une couronne de fleurs dans les cheveux. On était deux magnifiques hippies et on vient toquer à une porte et puis là il y a un vieil homme qui sort, qui nous voit arriver, qui fronce les sourcils, visage fermé, il n'avait pas l'air content. Et il était chasseur et moi j'avais, on se regardait, lui nous regardait, on sentait un peu quelque chose de duel entre nous. Et puis on commence à parler, sa femme arrive, sa belle-fille aussi, on parle. Et puis tout d'un coup, on sent que ça se détend en lui, en nous, etc. Et au bout d'une heure de conversation, sur le pas de la porte, il nous dit « bah, venez vous installer dans la caravane pour cette nuit ». Et en fait, on est resté 5 jours chez eux. Ils sont devenus nos grands-parents de substitution. À la fin, on les appelait papé et mamé. Et on s'adorait vraiment. Quand on est parti, tout le monde pleurait. Et surtout, papé a pris notre couronne de fleurs. Il l'a glissé derrière ses fusils. Il a dit, voilà, là, elle ne bougera plus. Et pour moi, ça, c'est un miracle aussi. Arriver à faire tenir des fleurs à côté des fusils, c'est vraiment le symbole de deux univers qui se rencontrent et qui apprennent à se connaître et à s'aimer.
Alors, tu as parlé de ta toge. Combien de temps restiez-vous réellement nu ?
Réellement nu, ça dépend. On peut rester complètement nu, je sais pas, 3 heures. Je me souviens, un départ dans le nord de la France. Il faisait moins 7 degrés, on était tout nus. On est parti, on a couru dans la maison des gens. On a toqué à la porte et puis on a très vite trouvé des vêtements. Et puis d'autres voyages comme celui de la Camargue par exemple, on a dû rester 24 heures ou 36 heures dehors, tout nus.
Avant que quelqu'un vous propose de vous habiller.
Voilà.
Par pitié en général ou par sympathie ? Qu'est-ce qui sous-entendait ce geste des gens de vous habiller ? Ou alors peut-être le demandiez-vous ?
Alors c'est une bonne question. Généralement, on formule une demande. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que... Il semble que ce qu'on demande, c'est quelque chose d'assez facile pour les gens à offrir. C'est-à-dire des vêtements. Il y a des vêtements, tout le monde en a chez lui. Tu sais, des vieux vêtements qu'on va donner à Emmaüs. Nous, on demande souvent un vieux t-shirt, un vieux pantalon ou des chaussures qui ne servent plus. Donc pour les gens, c'est facile à donner. Et surtout, ça fait plaisir. C'est un vrai bonheur en fait, on se rend compte de donner. Et surtout quand c'est une ressource qu'on a en abondance. Donc quand nous on arrive, généralement il n'y a pas trop de problèmes. C'est pas comme si on demandait qu'ils nous prêtent leur voiture ou quelque chose de plus rare et plus cher. Donc je dirais oui, c'est par sympathie, parce que tout simplement on a tous, pour moi aujourd'hui c'est une certitude, on a tous ce fond de bienveillance au fond de nous. On est tout le monde qui fait l'expérience d'aider son voisin, son prochain, ça rend heureux, c'est clair. Donc aujourd'hui en France, on a l'impression que ça n'existe plus, qu'il n'y a plus cette bienveillance, cet altruisme, etc. Moi je pense qu'il est toujours là, mais qu'il est caché sous des couches de peur. Et si on prend le temps d'aller gratter et d'aller contacter ce fond de bienveillance chez l'autre, eh ben, il réapparaît.
Nance, je sais que tu adores la musique, hein, c'est aussi un autre domaine dans lequel la magie opère à donf, comme on pourrait dire. Donc est-ce que tu aurais un morceau à nous suggérer, à intégrer dans cette émission ?
Alors il y a un morceau qui nous a beaucoup accompagné dans ces voyages, qui s'appelle The Wanderer, qui veut dire le vagabond, de Gene is Lucky.
Eh bien on se l'écoute.
Flowers in my room, and you don't need a job. You just need time to grow and die. And lovers on their cloud don't give a shit about the money.
the healer try to stay side by side, but it's so hard. 'Cause the morning always comes to kill the dream you had the night before. Well, I'm dragging myself all along the pavement up in the sky. There's someone behind and is guiding my steps. Up and down the life stairs helps me nearby. Living again. And I'm walking all that day, day after day. But it's okay, I'm on my way. Wandering again from the west to the east. I'll try to resist, but it's so hard not to fall. 'Cause the morning always comes to kill the dream you had the night before. Well, I'm dragging myself all along the pavement up in the sky. There's someone behind and it's guiding my steps. Up and down the life stairs helps me get by.
C'était donc The Wanderer par Gillies Lucky. Et nous sommes toujours avec Nance qui nous parle de nu et culotté. Des peurs ancestrales, vous aviez sans doute l'occasion d'en affronter quand vous étiez nu dans la forêt profonde, je suppose. Est-ce que vous avez eu des moments de terreur seul, écarté de la civilisation ou avec des moments de doute ?
Oui, je me souviens dans un bunker sur la baie de Somme, dans le nord de la France, on avait passé la nuit. Et il faisait assez froid, le sable était humide entre ces murs de béton aussi bien froid. On a commencé à s'endormir et ça allait à peu près. On n'avait pas très chaud, mais disons qu'on arrivait à s'endormir. Mais quand la nuit est tombée, moi je me suis réveillé en hypothermie pendant la nuit en tremblant. Et je ne savais pas quoi faire parce que qu'est-ce qu'on fait ? J'abandonne ? Mais j'abandonne et je fais quoi ? c'est la vraie vie, quoi. Je veux dire, c'est pas juste un jeu vidéo, quoi. Donc, j'ai eu très, très, très peur. Et heureusement, Moutz, qui était derrière moi, j'étais devant l'entrée du bunker, donc dans le courant d'air. Lui qui était derrière moi a pu me réchauffer en frottant sa main sur mon épaule très, très énergétiquement. Et au bout d'un moment, j'ai retrouvé un peu de chaleur et j'ai pu finir la nuit. Mais c'est passé à deux doigts, là. J'en ai eu très peur. Et je crois que c'est peut-être la chose qui nous a fait le plus peur dans la nature, c'est le froid. On se rend compte que on n'est plus vraiment adapté en fait à une vie sauvage. En tout cas, qu'il faut prendre le temps de réadapter notre corps et qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus adapté à un confort, disons d'évoluer entre 15 et 25 degrés. On a le chauffage, les vêtements, etc. Mais quand on se remet dans notre état sauvage, tout nu, on se sent vraiment des nouveau-nés, très vulnérables.
Mais ces challenges qui duraient un certain temps, ne les faisiez-vous point pendant des périodes auspicieuses du style printemps-été ?
Alors, les premiers, on les faisait pendant le printemps-été. Et en fait, au bout d'un moment, alors pour des raisons techniques d'emploi du temps, etc., mais aussi pour l'expérience, on a voulu se lancer dans ces expériences en plein hiver. Et on a fait un film, alors qu'il neigeait, on était en Isère. Je sais pas, il y avait 15 cm de neige par terre. On est parti, il faisait soleil, donc c'était tenable. Hein. Mais ce qui nous intéressait là, c'était en fait d'expérimenter ce concept sous toutes ses coutures. Donc on est parti en plein soleil, presque sous la pluie, sous la neige. Et comme ça nous permettait aussi de rencontrer nos limites. Et quand on va voir ces limites, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a des ressources qui sont gigantesques, mais qu'on contacte très peu parce que généralement, on reste dans notre zone de confort et donc on a très peu accès à ces ressources. Et nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est de découvrir l'énorme potentiel qu'on a dans le ventre, d'aller le titiller et d'aller titiller aussi celui de la rencontre avec les gens. Donc voilà, nous, c'est un peu un laboratoire finalement, ce voyage. C'est un laboratoire, on change les paramètres, comme un savant fou qui ferait « Ah, qu'est-ce qui se passe si je change la température, si je change ça ?» Je vais voir ce qui se passe. Donc nous, on a en même temps le scientifique, le savant fou, et puis en même temps la souris de laboratoire. Et puis on teste, et on fait des grandes découvertes.
Alors justement, si tu devais synthétiser le fruit de toutes ces expériences de laboratoire, et en particulier vos motivations, c'est plus donc la découverte et sortir de cette zone de confort plutôt que le masochisme, par exemple.
oui, c'est ça. c'est pas vraiment le masochisme. Mais c'est marrant que tu me dises ça parce que quand la première fois que je suis parti, bien sûr, ça a beaucoup interrogé nos proches, notre famille. Je t'avoue que ça m'a aussi interrogé. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je savais pas vraiment pourquoi on faisait ça. J'avais un appel au fond de moi qui était surpuissant, donc j'écoutais ça. Mais rationnellement, je comprenais pas vraiment pourquoi je faisais ça. C'est plusieurs années plus tard que j'ai compris ce que je cherchais. Et en fait, quand je suis parti comme ça, ma mère m'a dit, mais chaton, qu'est-ce que j'ai loupé dans ton éducation? Mais pourquoi t'as besoin de te mettre dans des situations pareilles? Voilà.
Et alors pourquoi alors justement?
Je crois que c'est juste tout simplement, comme beaucoup d'entre nous, une énorme soif de liberté. Et que cette liberté, nous, on la contacte comme ça. En se mettant dans des situations, en sortant du cadre, sortant du contexte culturel, en rebattant les cartes et en faisant apparaître des situations nouvelles. Et voilà, donc c'est une liberté... en nous, dans la relation, cette liberté aussi dans la relation, j'adore. Quand on arrive devant les gens quasiment nus, et ben tout d'un coup, on sort des habitudes. Je veux dire, quand on rencontre quelqu'un, généralement, il y a comme tout un tas de codes sociaux et bien établis dans lesquels on est, qui sont très importants. Hein. C'est aussi ce qui nous met en lien, ce qui rassure. Mais c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe quand on sort de ces codes-là et de voir que la rencontre aussi a un potentiel qui est illimité. Et les gens sont finalement, bien sûr, étonnés, mais finalement, très vite, ça, ok, j'ai en face de moi deux hommes tout nus, pourquoi pas?
Ouais, mais alors pourquoi n'as-tu pas tout simplement fréquenté des clubs naturistes? T'aurais eu ce genre d'expérience et moins le froid de canard seul dans la forêt?
Ouais, mais ça, c'est trop cadré. Non, mais c'est pas mon truc. Je t'avoue que la partie tout nu, j'aime bien. Pour le côté de l'expérience, de ce qu'elle amène pour nous et pour la rencontre. Mais je n'irai pas forcément dans un club naturiste tous les étés. Pour l'instant, peut-être un jour ça viendra, mais voilà, ce n'est pas vraiment ma passion. Ce n'est pas le moment non plus que je préfère dans le film. Quand on se met tout nu au début, il y a toujours... c'est un peu comme une petite mort. Et il nous arrive bien souvent, encore au bout du 16e ou 17e film, de se mettre à pleurer. Tiens, mais qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on va arriver à sortir de là? Ah, on se sent très, très vulnérable.
Ta mère te posait une excellente question. Chaton, mais qu'est-ce que j'ai loupé dans ton éducation pour que tu en arrives à faire de ces expériences? Bon, tu m'as dit la liberté, mais n'y avait-il pas dans ton parcours des prémices qui expliquent cela dans ta prime enfance, par exemple?
Bah, tu sais que j'ai appris il n'y a pas longtemps, petite dédicace, que quand je suis né, le jour de ma naissance, ma mère avait oublié mes vêtements. Tu sais, normalement, tu arrives avec un kit de vêtements quoi, pour l'enfant, et moi, j'en avais pas. Donc,
tu es ressorti de l'hôpital nu comme un ver.
Voilà. Et sinon, moi j'ai grandi dans un petit hameau entre Grenoble et Chambéry. Et puis dans ce petit village, il y avait une trentaine d'habitants. Et pour la plupart, c'était une vie assez paysanne. Et quand mes parents sont arrivés là-bas, voilà, moi je gambadais dans le village tout nu, je sais pas, jusqu'à 3, 4, 5 ans. Et ça avait le don d'agacer mes voisins. Et donc ma mère a arrêté de me laisser courir tout nu dans le village, elle m'a mis des vêtements. Et c'est marrant parce que ces voisins, je les ai revus plus de 20 ans après que les émissions de Nuit et Culottée soient passées à la télé. Ils me félicitaient, ils disaient « Bravo, c'est super, ils sont super ces films ». Et je trouvais ça drôle que dans un contexte, le fait d'être tout nu, ça pouvait déranger. Quand dans un autre, ça pouvait émerveiller. Voilà, c'était... Une drôle d'expérience. Et sinon, moi, il y a un épisode majeur qui m'a marqué, je pense, c'est l'incendie de ma maison quand j'avais 6 ans. Ma maison a complètement brûlé. Une maison que mon père avait fait lui-même et donc qui avait quand même une forte valeur sentimentale. Et puis, pour un enfant de 6 ans que j'étais, c'était aussi voilà, c'était mon seul repère, ma tanière, c'était mon temple, l'endroit où je vivais. Et quand elle a brûlé, waouh, je me souviens, j'étais devant, elle était en flammes. Je regardais ça, je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, les jours qui ont suivi, tout le village, toutes les villes alentours, notamment Saint-Pierre-d'Alvar, qui était la commune juste à côté, se sont collectés. Les habitants se sont collectés pour nous offrir des vêtements, des jeux. Et donc, j'ai été témoin d'une scène de solidarité exceptionnelle, extraordinaire. Et je crois que j'ai enregistré dans un coin de ma tête que quand on vit des catastrophes, ça réveille la solidarité et la bienveillance chez les gens. Et plus tard, je sentais que j'avais un goût pour me mettre dans des situations un peu périlleuses comme ça, parce que j'avais profondément confiance en moi que, quelque part, si ça va pas à un moment, les gens nous aideront. Et c'est comme ça que, quand je suis arrivé dans mes années d'études à l'INSA, une école d'ingénieurs à Toulouse, comme mes parents habitaient Grenoble, que je voulais aller les voir de temps en temps, j'avais pas beaucoup d'argent, je me suis mis à faire du stop. Et j'adorais ça. Je faisais plein de rencontres à chaque fois, et de fil en aiguille, je me suis dit, mais c'est génial, il faut continuer à explorer cette manière de voyager, mais pas que dans le moyen de transport. On va aussi le faire dans le moyen d'hébergement. Donc là, j'ai commencé à essayer de dormir chez l'habitant, puis après, dans une manière de s'alimenter. Et au fur et à mesure, il y a ce projet qui est né avec Guillaume Charouin, un ami que j'ai rencontré au lycée de Die, de faire le tour du monde en stop et chez l'habitant. Et on est parti en 2008 avec un voilier pour traverser l'Atlantique en voilier stop et nous emmener dans les Caraïbes. Dans les Caraïbes, on est allé jusqu'en Amérique centrale et puis en Amérique centrale, on est remonté jusqu'au Canada en stop et chez l'habitant. Et finalement, on n'a pas fait un tour du monde, mais on est revenu après en France en cargo. Et ça a été un peu notre voyage initiatique pour apprendre à se délester, pour apprendre aussi à faire confiance en l'inconnu, pour faire confiance dans les gens. Et quand on est revenu en France après un an et demi, on a écrit un livre sur les techniques de voyage alternatives. Donc comment peut-on se déplacer, se nourrir et s'héberger sans argent. On a écrit ce livre et puis après avoir écrit le livre, moi j'avais envie de partager ça via la vidéo. Et donc c'est comme ça que Nuit et culottée est née.
C'est comme ça que Nuit et culottée est née, vraisemblablement, mais quand même, tu t'es présenté peut-être Nuit et culottée à un studio de télévision
Donc, pour
proposer ton projet, je suppose que ouais. Ça ne s'est pas fait comme ça.
Ouais, exactement, t'as raison. Ouais, moi quand j'ai fini l'écriture de livre, qui aujourd'hui s'appelle La Bible du Grand Voyageur chez Lonely Planet, pour ceux que ça intéresse, j'ai appelé un ami, Moutz, et puis je lui ai dit, écoute, là, moi j'aimerais bien qu'on voyage un peu, mais est-ce que ça te dit qu'on voyage en France, qu'on aille chercher chez nous les mêmes sensations d'aventure qu'on avait en Amérique? Et comme lui aussi avait voyagé en Amérique en stop et chez l'habitant, il m'a dit, ouais, ok, bingo. Donc on s'est dit, d'accord, on voyage sans sac à dos. Ok, mais alors sans argent. Ok, et puis l'autre a surenchéri, sans vêtements. Banco. Et à ce moment-là, on bluffait tous les deux. Tu sais, c'était un peu deux mecs qui parlent entre eux, ouais, on fera ça. On bluffait complètement. Sauf que 2 mois plus tard, on allait jusqu'au bout du bluff. Et on était devant la rivière de la Drôme, tout nu. Juste avec un couteau et un sac étanche dans lequel on avait mis notre permis de conduire, parce que notre rêve à l'époque c'était d'arriver à Paris en décapotable rouge pour sortir en boîte de nuit habillé en costard cravate. On avait un téléphone de secours et puis un petit appareil photo pour prendre quelques images. Et donc on a fait ce périple. Donc je te passe les détails du périple, mais il était vraiment incroyable, si bien que quand on a fini le périple, avec les images qu'on avait prises, on a monté une petite vidéo en une nuit de 3 minutes. Et cette vidéo, on l'a envoyée à Paris, à Bonne Pioche, une boîte de production. Là, Banco, ils nous invitent à monter, ils nous disent c'est génial ce que vous avez fait. Si vous voulez, on peut faire des vrais films de 52 minutes avec du matériel professionnel, etc. Donc on a accepté et ils nous ont dit il faut qu'on rencontre un diffuseur. Et c'est à ce moment-là qu'on est allé voir France 5. Nous, on y allait habillés en buisson. Dans les locaux de France 5 à Paris, et on s'est assis autour d'une grande table et on a discuté sérieusement, habillé en buisson. Ok, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et ils nous ont demandé, voilà, c'est quoi vos intentions? Quelle est votre motivation? Et nous, on a répondu clairement, c'est parler de cette sobriété heureuse vagabonde. Et ils ont dit ok, c'est parfaitement dans notre ligne éditoriale, on y va, on fonce. Et donc 2 mois plus tard, on partait pour notre premier voyage.
Vous en avez fait combien sur 3 saisons alors ?
On en a fait 16. On en a fait 2 saisons de 6 et 1 saison de 4.
Et l'avenir ? Est-ce que ça continue, Nuit Culottée ? Tu es encore en train de préparer un voyage dans le futur ?
Ouais, alors Nuit Culottée, on se rend compte que ce laboratoire, pareil, il a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Là, par exemple, on aimerait voyager et formuler de moins en moins de demandes. Parce qu'on se rend compte que, voilà, on s'est passé d'argent, on s'est passé de vêtements, on s'est passé de sac à dos, en tout cas pour le voyageur. Mais il y a encore un outil qui nous permet de contrôler le voyage, c'est notre pouvoir de parole. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si on voyage sans formuler de demande ? Pas sans parler, hein. On continue de parler, d'échanger avec les gens, mais on ne formule pas de demande. Et on attend que le voyage nous offre ce dont on a besoin. Ou en tout cas, on se laisse bercer et emmener à droite et à gauche par le voyage. Donc voilà, ça c'est une expérience que j'aimerais beaucoup faire, qui demande d'avoir encore plus confiance dans l'être humain et dans le voyage en général. Et puis moi, ça m'intéresse en fait de venir réveiller cette confiance, de montrer le trésor d'humanité qu'on est finalement quand on prend le temps de se rencontrer les uns les autres. Et puis sinon, donc on a partagé ces voyages via des livres, via des films. Et aujourd'hui, moi, j'ai très envie de les partager dans des conférences. C'est ce que je fais en ce moment. Mais surtout dans des stages. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous demandent d'organiser des stages pour transmettre quelques outils, quelques histoires. Et nous, ce qu'on leur avait répondu au début, c'est « Mais le voyage, ça ne s'apprend pas dans un stage, quoi. Ça se vit. » Les gens disent « Oui, mais on est beaucoup à vouloir partir, mais on a peur et on n'ose pas faire le premier pas. » Et donc on s'est dit, on va organiser ces stages dans ce but-là, c'est-à-dire rassurer certaines peurs en donnant quelques outils et pour que s'installe chez les futurs voyageurs une confiance qui leur permette de faire le grand saut. Et on a organisé 2 éditions en 2011 et en 2012 et en 2013 qui ont été vraiment superbes. Et donc moi, ça me motive à continuer. Et voilà, donc là, il y a un stage qui va être organisé dans l'Iwa d'ailleurs, en juillet de cette année. Et l'idée, c'est de passer 3 jours dans la nature pour voir quelques techniques de vie sauvage et puis un peu de temps aussi dans la civilisation pour voir quelques techniques de vagabondage. Donc on va vraiment relier ce monde-là du sauvage et du vagabondage.
À ton avis, qu'est-ce que ça t'a permis de développer comme qualité ce type d'expérience hors norme ?
Je pense que une des qualités moi, que ça m'a permis de développer, en tout cas, ça m'a permis de prendre conscience qu'il y avait un énorme travail à faire, c'est sur la communication. Bien sûr, dans la communication avec les inconnus qu'on allait rencontrer sur la route avec Moots, mais aussi dans notre binôme avec Moots. Parce qu'on est tout le temps ensemble, 24 heures sur 24. On mange ensemble, on dort ensemble, on se déplace ensemble, on rencontre ensemble. Et notre relation, elle va traverser le froid, la faim, la fatigue, le stress, la peur, toutes les émotions. Et pour rester en lien dans cette intensité émotionnelle ou cette intensité physique, ça demande de bien savoir communiquer parce que c'est très très vite qu'on peut arriver sur un malentendu ou sur une tension ou sur un ras-le-bol, etc. Et moi, ça a été une école de la vie pour moi, ça. Comment est-ce qu'on fait pour parler de nos émotions, de nos besoins ? Comment est-ce qu'on fait pour en parler sincèrement et puis aussi sans heurter l'autre ? Ouais, pour moi, c'est très, 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 très précieux, là, ce qui s'est passé. Je crois que c'est ça. Pour répondre à ta question, moi, ce serait la communication et puis l'apprentissage de la vulnérabilité. Parce que je me rends compte qu'en tant qu'homme, je suis pleinement conditionné à être un super-héros et qui a jamais mal, qui est très fort. Sauf que quand on voyage à deux, au bout d'un moment, si on veut pouvoir s'entendre et évoluer avec fluidité, il y a besoin de se montrer dans notre vulnérabilité. Et ça, c'était peut-être l'apprentissage de la vraie nudité. Parce qu'enlever ses vêtements, finalement, c'est facile. Mais parler de soi avec humilité et sincérité, c'est une toute autre affaire.
C'est des qualités tout à fait chrétiennes dont tu nous parles, le dépouillement, la nudité. Tu sais, cette fameuse phrase qu'on retrouve dans les évangiles, « Regardez les petits oiseaux, ils n'ont besoin de rien pour vivre, ils se contentent de pépier, de vivre le moment présent », un truc comme ça.
Ouais, ou peut-être qu'on peut dire que les qualités chrétiennes sont d'abord et avant tout profondément humaines. Je crois qu'il n'y a rien de qui appartient à un courant particulier. Je crois que c'est des choses qui nous concernent tous, qu'on soit chrétien, musulman, hindou ou athée ou quoi que ce soit. C'est comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble, pour s'entendre, pour se comprendre et pour apprendre à se découvrir et peut-être à s'aimer.
Ça me touche ce dont tu parles sur la vulnérabilité. Aurais-tu un exemple ou deux à nous citer?
Ouais, j'ai surtout donné des exemples où on a galéré avec Moots. Je me souviens en Islande, on venait de passer 3 semaines à voyager ensemble. On avait passé des nuits dans des poubelles, des nuits interminables dans un grenier avec des pigeons morts, à essayer de slalomer, de trouver une place entre 2 pigeons, 2 cadavres. Attendre un jet qui pouvait nous emmener de l'Écosse à l'Islande pendant 1 semaine, à passer tous les jours dans l'aéroport et puis à perdre confiance, à pester. Bref, on arrivait en Islande, on était fatigués et puis tendus entre nous. Et puis ce jour-là, on était dans un désert, on voulait observer les aurores boréales. Et dans le désert, il y avait une carcasse d'avion. Et on était dans la carcasse d'avion parce que dehors, il pleuvait, il faisait très froid. Et il faisait tellement froid qu'on avait besoin l'un de l'autre pour se réchauffer. Sauf que ce soir-là, on était en conflit, on s'était engueulé. Et du coup, on avait juste envie d'être à l'autre bout de la terre. Et c'était assez magique avec le recul, cette situation. C'est on a besoin l'un de l'autre, forcément, pour survivre physiquement de notre chaleur l'un et l'autre. Et en même temps, il y a une partie de nous qui aimerait être très loin. Et je crois que c'est ça aussi qui a permis d'apprendre à bien se connaître avec Moots, c'est que tout le temps dans ces voyages, la priorité c'était la relation. Et donc, quoi qu'il se passe, des fois on éteignait les caméras, puis on se posait sur le bord de la route et puis on parlait pendant 3-4 heures, histoire de bien nettoyer le lien et pouvoir continuer après à voyager proprement et être complètement disponible au voyage et aux rencontres. Et cette histoire de l'Islande, pour moi, elle représente ça. C'est que, ouais, on vit des choses, des fois on est un peu agité à l'intérieur où ça va pas, on est en colère, etc. Mais on a pu toujours maintenir ce lien et sentir la nécessité de le maintenir. Parce qu'il n'y a pas de voyage s'il n'y a pas de duo, il n'y a pas de film s'il n'y a pas de duo non plus. Donc finalement, cette contrainte, elle nous aura permis à apprendre à surpasser les petits pics émotionnels et les violences aussi qui peuvent monter en nous.
Est-ce que, à ton avis, votre série arrivait à transmettre aux spectateurs cette magie des moments que vous viviez ?
Absolument pas. En tout cas, entre nous, dans le binôme, l'idée n'était pas du tout de montrer notre relation, parce qu'on n'a que 52 minutes et on a privilégié montrer la relation avec les inconnus ou montrer des tranches de vie des gens qu'on rencontrait. Après, si tu parles de la magie en général du voyage, oui, d'ailleurs, les gens nous font des retours là-dessus. Et souvent, ils nous disent qu'ils sont touchés parce que ça redonne foi en l'être humain. Et quelque part, ça réenchante leur regard sur leur propre région, sur leur pays, ou sur le monde en général. Et ça, pour nous, quand on nous dit ça, on dit bon, bah, c'est bon, quoi, l'objectif est réalisé. Et puis surtout, ça donne du sens au fait de prendre des caméras pour les emmener avec nous en voyage. Parce que des fois, on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces caméras, quoi ? On serait tellement mieux à parler avec les gens sans avoir besoin de faire attention aux batteries, aux cartes mémoire, aux points de vue, aux angles, aux plans de coupe et tout ça. Ça prend énormément d'énergie. Mais quand on voit ce que ça génère chez les gens, on se dit « Ok, on est à notre place ». Et ça, c'est vraiment le travail formidable de Charlène Gravel, la co-réalisatrice, parce qu'on aurait pu les monter de 1000 manières différentes, ces films, et elle a su à chaque fois aller chercher la lumière qu'il y avait chez les gens et puis la mettre en exergue, tourner ses films d'une manière à rencontrer les gens sans forcément... parce qu'on pourrait très vite tomber dans une forme de moquerie ou choses comme ça. Et elle, à chaque fois, elle gardait les séquences qui montraient la diversité extraordinaire d'humains qu'on a autour de nous. Voilà. Donc ouais, ça réveille une forme de magie, une forme de confiance en l'être humain et ça, c'est génial.
Tous ces nus et culottés sont encore visibles sur France 5?
Alors non, c'est sur internet maintenant qu'on peut les trouver.
On tape nus et culottés et pof, on retrouve ces 16 épisodes.
Ouais, exactement.
Super, et bien écoute, moi je te remercie beaucoup, Nance, d'être passé à la radio pour parler de ton expérience parce que c'est fascinant et effectivement je sens en t'entendant, et j'espère que ça va passer à travers cette interview, combien en repoussant nos peurs et en sortant hors de notre zone de confort dont tu parlais, on peut réallumer un feu magique dans nos vies et retrouver la foi dans l'être humain. dans ces temps difficiles de crise. Donc, merci beaucoup. Je te donne rendez-vous d'ailleurs pour reparler de ton stage qui aura lieu en juillet.
Ouais. Avec
ça
grand
pourrait
plaisir.
Être une bonne idée d'en parler, de l'introduire à la radio pour que cela se sache.
Avec grand plaisir.
Et je te souhaite donc une très bonne continuation.
Merci Louis.
Et bien pour se quitter, aurais-tu une autre chanson à nous proposer, Nance ?
Alors oui, il y a mon ami Guillaume Quantique, son nom de scène c'est Ananda, qui a composé une chanson magnifique qui s'appelle The River et qui raconte cette envie de commencer de rien dans la nature, dans une rivière, repartir comme un nouveau-né. Et Guillaume Quantique est de Diolfi. Alors voilà, pour finir cette interview, lui rendre un peu hommage parce qu'il nous a beaucoup aidé au début de Nuit culottée.
À bientôt.
I won't start today, I'll start and make it. Up the hill and down in the river, in the river. Society sometimes put us down, running after something you will never get. People are rough together, fighting each one another. I wanna be like the river, flowing freely to the sea. Alone in the water, I can feel my body feel free. When the sun rises and bless the morning, and shine a brand new day. I wanna start today or start in naked. Up the hill and down in the river, in the river. I close my eyes and I can feel so released. The only sound I can hear is the water running. Years late. It's as simple as it seems, but it's more than enough for me. Well, I know that later I gotta get back, back to my journey. But for now, the sunrise and bless the morning. Shine a brand new day. I wanna start today or start in naked. Up the hill and down in the river. In the river, I wanna start today or start in naked. Up the hill and down in the river, in the river, in the river, in the river.
L'interview du jour.